Composer pour des voix, c'est un talent. Mais composer pour des images, c'en est un autre. Cette semaine, je vais vous parler d'une méthode de travail, d'un artiste habitué à créer des ambiances pour des morceaux de 4 minutes et qui a adapté son style à un long métrage. Parce qu'un beatmaker, ça s'y connaît en bande originale. Bonjour tout le monde et bienvenue pour le 16e numéro de Boisson chaude et tartines fraîches, le petit podcast hebdo qui traite un sujet en lien avec la musique. Alors si vous me suivez sur les réseaux ou que vous avez lu le numéro d'avril du magazine Sugi, vous savez peut-être que j'ai écrit un sujet sur le phénomène du drumless, c'est-à-dire des bandes-son dans le rap qui n'ont pas vraiment de percussion. En fait, la grosse caisse et la caisse claire qui sont habituellement là pour marquer le temps et le contretemps sont complètement mis au second plan. Ça peut paraître bizarre dans un style de musique à la base très rythmique, mais c'est une approche qui va permettre de créer des ambiances, une atmosphère plus calme, plus contemplative. Et ce qui était un peu un exercice pour faire une pause, une respiration dans un album, a été affiné depuis 3 décennies, au point que des rappeurs et beatmakers actuels en ont fait leur marque de fabrique. Bref, j'arrête ici la muse-bouche, si le sujet vous intrigue, vous pouvez le trouver dans le dernier numéro de Tsugi. Par contre, il y a des éléments que je n'ai pas trop détaillés dans cet article, et surtout un sur lequel je voulais revenir rapidement. C'est le lien entre les beatmakers, ceux qui font les bandes-son, et le cinéma.
50% de mes beats, les samples viennent de BO. J'ai déjà fait des BO pour des films et je suis un aficionado de ça. Un des grands amours que j'ai pour la musique vient des compositeurs de BO de films. C'est des gens que je considère un peu comme moi. Les gens qui faisaient de la musique de film dans les années 70, c'est pareil que nous maintenant.
Vous venez d'entendre Madisme, qui était un producteur de longue date du rap français. Il était notamment aux côtés de NTM dans les années 90. Et sa passion pour les musiques de films, il la partage avec de nombreux beatmakers. Alors globalement, aller piocher dans les musiques des années 60 à 80 est une grande tradition qui ne se perd pas dans le rap. On va chercher le grain des vieux enregistrements, mais aussi le côté à la fois organique et sophistiqué. Les détails et imperfections sur des compos qui peuvent être très variés, avec beaucoup d'instruments. C'est un peu l'aboutissement de l'analogique, une période où les artisans du son maîtrisent les outils classiques et savent tirer parti des évolutions technologiques dans un grand élan créatif. Pour faire un parallèle avec le jeu vidéo par exemple, pensez aux dernières grandes années de la 2D avant que la 3D ne s'impose, et comment cette esthétique a ressuscité bien au-delà d'un délire rétro. Et bien pour les prods de rap, c'est un peu pareil. On peut toujours compter sur ce bagage musical, un peu daté, mais toujours aussi abouti. Alors pourquoi c'est important? Et bien parce que les beatmakers ne collent pas des éléments au pif, ils créent des décors sonores qui vont inspirer les rappeurs dans leur texte ou leur interprétation. Et quitte à être évocateur, raconter quelque chose tout en restant abstrait, on trouve difficilement mieux que les bandes originales de films. Alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pas tellement les films qui ont été les plus samplés.
Pour l'anecdote, c'est sans doute Scarface, et d'assez loin.
Mais bien d'artistes qui ont lié leurs deux amours, des beatmakers qui ont eux-mêmes fait de la musique de film. On pourrait me dire que des musiciens qui se mettent à faire de la bande-son pour le cinéma, ça n'a rien de bien original. Au hasard, je peux vous citer Trent Reznor, Tangerine Dream, Curtis Mayfield ou Daft Punk. On a de tout, à toutes les époques récentes, et sur des styles très variés. Cependant, ce qui est intéressant avec les beatmakers, c'est que leur art repose sur le collage d'éléments déjà existants. Alors comment est-ce qu'ils vont aborder le fait d'illustrer un film ? Et pas juste faire le morceau du générique, par exemple. Alors pour éviter de partir dans tous les sens, je me suis dit qu'on allait prendre un exemple marquant, la bande originale de Ghost Dog. Le film de Jim Jarmusch sur un tueur à gages qui suit précisément les codes du samouraï dans son quotidien new-yorkais a été mis en musique par RZA. Le producteur et rappeur du Wu-Tang Clan a été l'un des plus gros savants fous du son hip-hop, en s'inspirant du folklore des films d'arts martiaux asiatiques et en étant aussi un des premiers à tester des types de collages inattendus, bruts, saccadés, et même drumless. Alors Jarmusch est clairement venu chercher la patte RZA pour illustrer le film. Même plus que ça, c'est vraiment la bande-son du personnage principal dans son quotidien. C'est comme si le Ghost Dog avait acheté une compile de rap qu'il écoutait religieusement. Et ici, RZA jongle entre des prods qui semblent taillés pour rapper dessus et des ambiances mystérieuses dignes d'un film noir moderne. En fait, comme son style est déjà très déstructuré, avec des mini-samples, des coupures radicales, il est facilement malléable et identifiable. J'ai pu trouver une interview où le réalisateur et le compositeur parlent de leur approche sur ce film, et l'implication de RZA est assez impressionnante.
La composition commençait à avoir plus de sens pour moi, parce qu'avant il s'agissait de ficeler 4 ou 5 échantillons ensemble et de jouer des mélodies par-dessus. Mais maintenant je connaissais mon cycle de quintes par exemple, ma palette a commencé à s'étendre. Je n'allais pas prendre ce travail sans me préparer, j'ai donc étudié Pierre et le Loup, et le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Entre les deux, j'ai compris que je pouvais appliquer des thèmes instrumentaux aux personnages, et cette information est devenue le fondement de ma compréhension des compositeurs. Par exemple, dans Pierre et le Loup, il a utilisé la flûte pour l'oiseau, et pour le loup, il a utilisé le trombone. Et si vous remarquez, dans Ghost Dog, quand il arrive et que vous voyez cet oiseau voler dans les airs, il y a un rythme de hip-hop, mais la mélodie est jouée par une flûte.
D'ailleurs, RZA n'a pas composé des morceaux pour des scènes en particulier, mais pour coller à des atmosphères. Et après, au montage, cette bande-son a été testée et adaptée sur les images. Le processus de travail entre Jarmusch et RZA respire la débrouille et la liberté créative.
Jim a envoyé les premiers extraits sur des versions VHS. J'ai remis à Jim un DAT, une cassette au format numérique, remplie de morceaux sur lesquels j'ai travaillé pour le film, Tout ce que je lui ai donné n'était à l'époque même pas sur un ordinateur portable ou fixe. J'avais simplement une petite télé avec un lecteur VHS intégré. J'avais mis ça en place avec mon équipement, mon clavier et ma boîte à rythme. Je lançais les images, puis je créais.
Au final, j'ai été assez surpris de trouver assez peu d'exemples de beatmakers qui ont créé la bande-son d'un film ou d'une série. Il y a quelques cas autour d'animés, comme par exemple Samurai Champloo, dont la musique a été faite par des producteurs dont Nujabes, ou récemment la série Yasuke avec une BO signée par Flying Lotus. C'est d'ailleurs assez frappant de retrouver toujours la même filiation entre un son typé hip-hop et le folklore japonais. RZA a clairement créé une niche où les deux cultures se joignent et perdurent. Le code du samouraï est toujours très puissant. Alors, est-ce que vous avez vu Ghost Dog ? Sinon, je vous le recommande assez fortement. Et autrement, est-ce que vous connaissez d'autres beatmakers qui ont mis leurs pattes sur un film ou une série ? Alors, on a de plus en plus de gens qui créent des ambiances musicales inspirées du son hip-hop, mais moins directes, plus atmosphériques, et donc qui pourraient plus facilement titiller notre imaginaire. Si vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram ou notre serveur Discord. Et on finit avec quelques petites recommandations. Oui, Kurt Cobain est mort il y a 30 ans, mais ce n'est pas une légende pour tout le monde, surtout dans sa ville natale. Sur Slate.fr, David Berger a fait un reportage dans la ville d'Aberdeen, au nord-ouest des États-Unis, d'où était originaire le chanteur de Nirvana. Et la relation était au mieux mitigée. Cobain est une star locale, reconnue et qui fait venir de nombreux touristes, mais de son vivant, il a aussi détesté cette ville qui ne l'acceptait pas. Et ça a clairement inspiré sa musique. Dance punk, deux mots qui ont presque été ennemis au début de leur relation dans les 70s, mais ça a vite et beaucoup évolué. Le punk, par son énergie répétitive et ses multiples influences, peut aussi faire danser, et on l'a bien vu depuis 40 ans. La chaîne Middle Eight vient de faire un inventaire très exhaustif du mouvement post-punk à travers les groupes qui nous ont fait danser ces dernières décennies. C'est une véritable chronologie des différentes vagues jusqu'à aujourd'hui, avec des tas d'exemples et d'extraits. Si vous voulez faire votre propre playlist rock pour une prochaine soirée, vous aurez de quoi faire. Eux, ils ont fait la leur, et je vous la partage aussi en description. Voilà, c'était le 16e service de boissons chaudes et tartines fraîches, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tourner l'épisode, à nous suivre sur les réseaux, et pourquoi pas soutenir notre travail sur Patreon. Si vous l'avez manqué, le dernier millésime vient de sortir, on y cherche le morceau de l'année 2007, et on peut dire que c'était aussi une année dansante. Excellente journée, splendide semaine, et à mercredi prochain. Salut !